Bonjour chères auditrices et auditeurs, vous êtes présentement avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Nous allons continuer à dénoncer toute forme d'abus de pouvoir et d'injustice, puisque nous croyons sincèrement que le public doit être informé pour qu'il puisse former une opinion juste et agir peut-être en conséquence. Donc, si vous pensez que nous vivons dans une société de justice et de droit, détrompez-vous, ce n'est pas tout à fait le cas. Nous vivons dans une société plutôt de plus en plus complexe où la justice fait grandement défaut, non pas par nos lois, mais c'est bel et bien par ceux qui sont mandatés d'appliquer ces lois. Donc selon les plaintes reçues par notre organisme, nous constatons que le nombre des abuseurs de pouvoir grimpe en flèche et personne d'autre que vous, mes chères auditrices et auditeurs, ne pourra les stopper sinon les ralentir. Donc la justice et le respect sont nos rêves partagés, alors travaillons-nous ensemble afin de réaliser ce qui est vraisemblable. Et justement, pour participer à ce projet, vous devrez avoir confiance en vous, courageux, infatigable. Et au-delà de tout, ça, vous devrez croire sincèrement, sans doute aucun, que la justice sortira vainqueur au bout de la ligne. Voilà pourquoi la mort est placée au bout du rouleau. Nous sommes tous condamnés d'être un jour sur le même pavé. Donc à quoi ça sert d'abuser de votre putain de pouvoir ? Nous allons vous présenter cette semaine la seconde partie des témoignages d'un homme qui, depuis 15 ans, continue à lutter contre ce qu'il pense n'est pas juste et que ça ne doit pas être arrivé ici au Québec. Ici au Québec, dans ce combat que vous allez suivre, il y a un exemple vivant d'un homme qui a simplement refusé de baisser les bras face à l'injustice. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, un militant du MAJ, un mouvement de défense des droits de la personne face aux abus de notre système judiciaire. Si vous souhaitez participer à cette émission, vous pouvez en tout temps nous rejoindre au 514-273-4302, donc je répète 273-4302, ou bien nous écrire à info@commercialmaj-quebec.com. Restez à l'écoute, après notre thème musical, nous revenons avec le reste de notre émission.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un un homme qui a payé sa dette. 20 ans de prison mérité reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la une.
Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Donc voilà, comme prévu, nous allons reprendre, si vous voulez bien, notre entretien avec notre invité de la semaine précédente, Monsieur Robin Edgar, un homme qui nous semble un peu particulier. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va agir devant une injustice de telle manière. Donc, et encore moins de mettre autant d'années pour combattre ce qui lui semble inacceptable dans une société comme la nôtre. Je vais quand même faire un petit résumé de ce qui était dit la dernière fois afin de mieux poursuivre notre entretien. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez de ce témoignage, ce n'est pas le fond de l'histoire elle-même, puisqu'elle a pu être traitée au moment de son déclenchement et le problème serait résolu depuis longtemps. D'abord, ce n'était pas le cas et elle tombe justement sur un citoyen qui a de la difficulté à digérer l'injustice, l'abus de pouvoir. Et vous allez voir, depuis 15 ans, il traîne encore cette difficulté qui devient de plus en plus énorme et il constate à la longueur de son combat que d'autres institutions qui sont supposées ramener de l'ordre et rendre justice, comme le SPVM ou le système judiciaire, il découvre tardivement que ces institutions, si vous me passez le mot, s'embarquent en position négligente et prêtent main forte à démolir au lieu de construire la vérité. Donc, je résume la première partie du combat de notre invité, M. Robin Edgar. Un jour, ce monsieur-là a senti le besoin, comme ça peut nous arriver tous, si ce n'est pas déjà arrivé, de faire des recherches d'ordre spirituel. Question de savoir qu'est-ce qui peut être le mieux dans son cas, par exemple. Et je pense que ces questions fondamentales, avant l'homme était soucieux face à des interrogations de cette nature. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'homme ne pense simplement pas, ou plutôt préfère ne pas poser la question ou cette sorte de question d'ordre spirituel. Notre invité d'aujourd'hui n'adhère pas à cette nouvelle philosophie, mais plutôt soucieux, donc il a fait des recherches, puis, pour une raison ou d'autre, il a trouvé chez les unitariens ce qui réconforte son besoin spirituel. C'est une branche religieuse tirée un peu du christianisme, puisqu'elle ramène les mêmes principes, ou presque, mais elle ne croit pas à la Trinité. Donc pour eux, Dieu est unique et rien d'autre ne peut partager ce type de divin. Et selon eux, donc, il faut suivre l'exemple du Christ, un modèle de cheminement spirituel, mais il y a là surtout un rapport entre le vivant et le monde qui est important. Les principes véhiculés par cette croyance, donc il y a la liberté de conscience et de penser, il y a aussi la valeur et la dignité inhérentes à chaque personne, il y a aussi la justice et la compassion dans les relations humaines, l'engagement en faveur des principes démocratiques. Donc, et au-delà de tout, cette Église ouvre ses portes à toutes les autres religions ou autres, une chose qui va peut-être vous surprendre, la plupart de ses pasteurs sont athées. Donc voilà pourquoi notre invité, M. Robert Edgar, qui est devenu en 1993 membre officiel de l'Église unitarienne universaliste de Montréal, qui est d'ailleurs située au 5035 Maisonneuve-Ouest, avait fait une proposition au comité d'éducation religieuse au sein de cette Église unitarienne. C'est justement de programmer une journée annuelle où l'Église sera porte ouverte à toutes les autres religions et à tous les citoyens qui le désirent. Question de célébrer une fête interreligieuse où il y aura un échange entre les croyances. Voilà aussi une excellente manière de grandir ensemble. Et selon les principes unitariens, l'idée est excellente. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle était acceptée à l'unanimité par les membres du comité d'éducation religieuse de cette église. Donc le conseil d'administration et son président David B. Park avaient approuvé la proposition qui était mise à l'œuvre en 1994. Un succès remarquable. Et comment une excellente initiative, on part de la réalisation d'un projet de rigueur. Difficile, quasiment impossible dans une ville comme Montréal, où les communautés forment des ghettos et les rapprochements entre elles se font avec beaucoup de méfiance. Ni Immigration Canada, ni d'autres institutions gouvernementales n'ont réussi un tel projet, et je parle en connaissance de cause. Donc l'année suivante, le pasteur David B. Park quitte ses fonctions et il fut remplacé par un nouveau pasteur nommé Raymond Drinan. Et voilà, monsieur Robert Edgar, c'est à partir de là comme votre combat a commencé avec l'abus et l'injustice. Donc le nouveau pasteur rentre dans ses fonctions et il met fin à votre projet. Autrement dit, il annule la continuité et la progression de votre projet. Il supprime du calendrier de l'Église cette célébration. Est-ce que c'est ça, M. Edgar?
C'est plus ou moins ça, sauf que c'est pas juste le pasteur lui-même. Il n'a pas la puissance comme ça.
Total, tu veux dire.
Ça veut dire que c'était en collaboration avec le conseil d'administration. Et effectivement, c'est vraiment le conseil d'administration qui a fait la décision.
Mais si j'ai bien compris que le comité, parce que vous avez déjà célébré cette célébration
ça,
en 94, en 95, l'arrivée du pasteur, et c'est l'arrivée de ce pasteur-là qui a un petit peu basculé un petit peu les choses, quoi.
Absolument, oui. Parce qu'il s'est allié avec le conseil d'administration pour mettre fin à cette fête interreligieuse.
Oui. Et c'est de là que les 15 ans, c'est-à-dire jusqu'à présent, vous êtes en train de traîner ce problème depuis 15 ans et ce n'est pas encore fini. Pouvez-vous dire aux auditrices et aux auditeurs, qu'est-ce que vous avez fait une fois ce nouveau pasteur est arrivé, puis il a annulé ou il vous a enlevé cette idée du calendrier de l'Église, quoi.
Voilà, la première chose que j'ai fait, j'ai porté plainte contre le conseil d'administration lui-même pour la façon antidémocratique dans laquelle ils ont dit que c'est pas possible de continuer ça. Parce que c'était tout en secret. J'étais barré de la réunion. J'étais pas capable de dire un seul mot. C'était tout contrôlé pour qu'ils arrivent à la décision de mettre fin à cette fête interreligieuse. J'avais aucune façon.
Mais d'ailleurs, ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que ce n'est pas l'idée qu'il a pas accepté ton idée, il était libre d'accepter ou de ne pas accepter, mais vous, c'était l'antidémocrate qui vous avait dérangé, ça veut dire la façon.
C'était surtout ça. Évidemment, je ne serais pas très heureux s'il dit non aussi, mais c'était vraiment la façon antidémocrate dont ils ont agi. Et ça, c'est clair, dans ma plainte, c'est clairement ça.
Mais M. Edgar, vous avez souhaité que ce nouveau pasteur, vous avez souhaité qu'il vous convoque et qu'il essaie de vous convaincre ou vous expliquer pourquoi?
Bon, non seulement ça, ils ont rien expliqué, ils n'ont jamais expliqué pourquoi
ils
n'ont
pas. Quoi
que ce
soit,
Puis, l'Église est supposée d'être ouverte à ce genre de choses. Même dans les principes, il parle de l'acceptance et l'encouragement de la vie spirituelle. Alors, pour mettre fin à quelque chose comme ça, qui était un vrai succès.
C'était
un très bon fête interreligieuse avec beaucoup de participants.
Tout le monde, ils ont aimé.
Très divers. Il n'y avait aucune raison pour mettre fin à ça.
Selon moi.
C'est clair, en termes de qu'est-ce qui s'est passé après, c'est que c'était l'intolérance des athées dans l'Église contre les choses trop religieuses.
Et ça, c'est une remarque
trop
aussi.
Liée à Dieu.
C'est une remarque aussi que j'aimerais bien ajouter à nos auditeurs et auditrices, comme quoi le pasteur, le nouveau pasteur, qui était Raymond Drinan, était athée. Hein?
Il était athée, et d'après moi, il est ce que j'appelle un athée fondamentaliste. Il y a des athées qui sont...
ouvertes, un petit peu.
C'est ça. Il y a des athées qui ne sont pas contre la religion, ils ne sont pas contre les gens qui croient en Dieu. Pas en Dieu eux-mêmes, il ne veut pas mêler dans ça.
Ouais.
Mais lui et d'autres membres de l'Église étaient vraiment interreligieux.
Oui, c'est-à-dire
que si tu parles de Dieu, ils vont t'essayer de te silencer, etc.
Mais à partir que lui, il n'a pas consulté les autres membres et tout, pour vous, il était un antidémocrate.
La chose pasteur, ouais. très antidémocrate, c'était la façon dans laquelle ils ont géré leur réunion. Comme j'ai dit, c'était tout en secret. C'était pas normal, ça. Normalement, j'aurais été capable d'être là et expliquer les choses, défendre les idées.
Se défendre vos principes propositions. C'était rejeté. Mais je veux savoir, monsieur Edgar, vous avez, suite à ça, vous avez déposé une plainte, si je me trompe pas.
J'ai déposé une plainte contre le conseil d'administration. Ce plainte-là a été plus ou moins rejeté.
Rejeté.
Mais la chose peut-être la plus importante pour avancer les choses, c'est qu'un mois après, c'était actuellement, excusez-moi, c'était le jour après que j'ai déposé le plaint contre le conseil d'administration. J'avais une réunion avec le pasteur qui était déjà, c'était déjà schedulé.
Et le pasteur,
dans cette réunion-là, qu'on en a déjà parlé un peu.
C'est pas, j'en ai parlé la dernière fois, mais donc le pasteur, il est venu vous voir chez vous à la maison.
Oui. OK. Ça,
Et quand il est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé, M. Edgar? Vous entendre?
La réunion était supposée d'être pour moi, pour être capable d'expliquer les choses à lui. Lui, il était très fâché à cause du plaint que j'ai porté contre le conseil d'administration. Il était presque pas mentionné là-dedans.
Donc, il est arrivé avec la défensive, quoi. Il était
très défensif, fâché, puis il a voulu parler de ça. Puis il a parlé de ça pendant, je ne sais pas, quelques minutes, puis il a voulu partir. Et j'ai dit, une minute là, vous êtes ici pour que j'explique les choses. J'ai des choses à te montrer, à parler. Comme j'ai expliqué dernièrement, j'avais une exposition d'images qui expliquait certaines choses. Alors, finalement, il est resté. Mais même avant de commencer, il a traité ça comme, en anglais, silliness and fantasy. Ça veut dire que des bêtises.
Des niaiseries, quoi.
Des niaiseries, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est pas grave.
C'est
mais ce qui est plus grave, si j'ai bien compris, c'est là où vous êtes traité comme quoi c'est une secte, vous voulez mener une secte.
Ça s'en vient. La deuxième chose qu'il a fait, j'ai continué et j'ai commencé à expliquer l'expérience religieuse dont je réclame. Puis il m'a interrompu et il a dit « You mean your psychotic experience ». Alors, c'est pas nécessaire de traduire ça, je pense. Puis il a insisté dans une façon fâchée que je cherche la professional help, aller voir un psychiatre.
Un psychiatre directement. C'est-à-dire, là, il vous traite comme quoi vous êtes un malade.
Moi, j'ai continué à expliquer les choses. Puis quand je suis arrivé à la fête interreligieuse, quand j'ai commencé à expliquer ça, il m'a interrompu une autre fois. Puis il a dit « You mean your cult ». En anglais, ça veut dire votre secte. C'est très péjoratif.
Et pour vous, secte, ça vous dit quoi pour vous?
Ça, c'est la chose. C'est un mot qui peut être très général, juste une croyance, mais on sait très bien que c'est ça. Ça peut être très grave.
Dans le contexte, il était grave, quoi.
C'est ça.
Ça fait penser à quoi?
C'est ça que j'ai dit. J'ai dit à lui, what do you mean by cult?
Oui.
Puis il a répondu, I'll say it in English, I mean a manipulative and secretive religious group. Alors, il a utilisé le mot dans le sens le plus péjoratif, un groupe
dangereux.
Un secte dangereux, c'est ça.
Et ça va, et pourtant, l'expérience a été mise sur pied, et puis ça a été un grand succès en 94 et tout. Ouais. Et là, vous êtes traité de malade mental, vous êtes traité de quelqu'un qui va mener une secte dangereuse.
C'est ça.
Ça vous a bouleversé, quoi.
Oui.
C'était pas ça que vous avez entendu, quoi.
Oui, absolument
pas. Et surtout, vous êtes rentré dans après une longue recherche, vous êtes rentré dans cette église pour chercher, pour justement les principes et surtout l'ouverture de cette église-là.
C'est ça. Ils réclament d'être très ouverts, très libéral, etc., etc.
Donc, j'ai bien compris, après ça, le pasteur, il quitte.
Oui.
Et vous avez déposé encore une plainte contre lui.
C'est ça.
pour l'événement qui s'est
exact.
Produit, quoi.
Et ça a pris un couple de mois avant que j'ai porté plainte parce qu'il a dit de voir un psychiatre.
Oui.
Il m'a traité comme psychotique.
Oui.
Et j'ai parlé avec un avocat après cette réunion.
Parce et vous a conseillé d'aller voir un psychiatre réellement pour démontrer que ce n'est pas le cas.
Exact.
Et vous l'avez fait.
Oui. Alors, c'est ça que j'ai fait.
Et vous avez amené un papier, une attestation qui atteste comme quoi vous êtes vraiment sain, sain d'esprit.
Oui,
quoi.
Il n'a trouvé aucune trace de psychose. Puis, d'après lui, j'étais en bon état.
D'après lui et d'après nous aussi.
Mais je veux dire que ça explique le délai. J'ai déposé la plainte contre le pasteur le 14 février 1996. Puis j'ai envoyé des copies au bureau chef, si on peut utiliser ce mot, à Toronto.
Une copie conforme.
Et Boston. Il y a un bureau canadien. Il y a un bureau à Boston qui est plus ou moins international ou au moins nord-américain.
Le plus important, c'est la réponse a été rejetée aussi. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de suivi. Il n'y avait pas de suivi, c'est bon. Mais là, vous continuez à participer à l'église, vous allez toujours à l'église, vous allez...
Oui. Oui. J'essaie de régler le problème. Ça a été rejeté... c'est intéressant parce que le bureau canadien, ils ont dit, ils étaient très diplomatiques, ils ont dit que selon nos lois, selon nos règlements, on ne peut faire rien.
On peut rien faire.
Nos mains sont ligotées. Au Boston,
Ils ont dit quoi?
Ils ont blanchi le pasteur.
Ah,
ont dit actuellement que son comportement était en dedans les règlements pour les pasteurs. D'après moi, ce n'était pas du tout le cas.
Mais vous n'avez pas avalé ça. Ça a été un petit peu difficile.
Exact.
Vous ne la comprenez pas. Oui. Et c'est tout à fait compréhensible. Et qu'est-ce que vous avez fait après?
C'est ça la chose. Boston et Toronto, ils ont dit que c'est au niveau de la congrégation qu'il
faut régler
ça.
Oui, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez fait
après ça? C'est ça, parce que c'est démocratique. J'ai annoncé aux congrégations durant un service. Il y a une section de la célébration où on peut partager nos joies et nos concerns.
Et c'est là où vous êtes présenté et vous avez expliqué votre cas.
Très brièvement. Très brièvement, j'avais une lettre. J'ai dit simplement que ça s'est passé et j'ai une lettre qui explique tout et j'ai distribué les lettres après la service. J'ai pas interrompu pour la service.
Parfait. Et puis?
Puis, certains gens semblent d'être concernés, mais la plupart ignoraient ça.
Ils ignoraient
puis,
ça.
Puis, enfin, rien de concret s'est passé. Alors, moi, j'ai continué à distribuer des lettres après les services pour que le maximum de gens seraient au courant de ça.
Okay.
Puis, à un moment donné, l'Église a essayé de me silencer. Ils ont interdit de distribuer des lettres.
OK. Mais c'est là où qu'ils ont, pour la première fois, ils ont mis sur pied un nouveau comité contre les comportements perturbateurs,
c'est ça?
Donc, ils ont formé, c'est pour la première fois dans l'Église, ils ont formé ce qu'on appelle un comité contre les comportements perturbateurs, c'est ça?
Exact.
Et ça, c'est l'intervention de CA.
Oui.
Et c'était quoi, qu'est-ce qu'ils avaient fait, le comité, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, il vous a interdit de...
Bon, c'est ça, c'était juste pour m'interdire de distribuer des lettres. D'après moi, distribuer des lettres après un service, c'est pas de tout... comportement perturbateur, mais il y avait déjà un politique comme ça dans l'Église en général pour les gens qui ont vraiment perturbé. Alors, ils ont utilisé ce politique pour essayer de me silencer. Et effectivement, quand ils ont mis ça sur pied, moi, j'ai porté plainte contre le pasteur. J'ai utilisé le langage et j'ai montré dans mon plainte que le comportement du pasteur était plus perturbateur
que le mien.
Exact. Sauf qu'ils ont tout ignoré ça. Et c'était juste pour me silencer. Puis,
ils ont interdit quand même de s'exprimer dans l'Église, premièrement, et de distribuer des pamphlets ou des lettres, des plaintes au monde,
Au
sein de l'Église.
Ils ont dit que tu peux aller sur la rue et tu peux distribuer des lettres sur le trottoir. Ils ont même dit que je peux protester devant l'Église avec des pancartes si je voulais. Alors, finalement, c'est...
mais vous avez quand même déposé la plainte contre le pasteur et vous étiez traité comme quoi c'était... Il a nié...
C'est ça. Dans ce réunion, on a eu une réunion avec cette comité.
Vous avez demandé de rencontrer le comité, oui.
C'est ça. Dans ce réunion, les membres de le comité ont dit que le pasteur était en train de nier avoir dit ce qu'il a dit.
Ouais. Comme quoi il vous a traité de malade mentale, sec et tout. Il a nié ça.
Ils étaient en train de dire... Ils n'étaient pas très clairs, mais ils ont simplement dit qu'il nie.
Il a nié tout ça.
Alors, Alors, vous je lui ai rencontré immédiatement après cette réunion, puis il était là comme vainqueur dans un sens. Oui. Et j'ai dit à lui que le comité disait qu'il était en train de nier ce qu'il a dit. Puis il est sorti immédiatement très fâché.
Oui.
Et j'ai dit, bon, ce que j'ai fait, j'ai envoyé une lettre à lui un couple de jours après, et j'ai dit, si tu t'excuses pas immédiatement... si tu t'excuses pas immédiatement, je vais te dire que vous êtes un menteur.
Oui, c'est bon. Ouais. Donc, on va juste prendre une pause musicale et on va reprendre l'entrevue.
Années ont été riches en émotions. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif allant jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit. C'est confidentiel.
C'est toujours mieux de vérifier. Juste pour être sûr. Sûr, sûr, sûr.
Faites valoir tous vos droits avant le 30 mai 2011. Un message de la Commission de l'équité salariale.
Adoramique!
Montre-toi donc, diplodocus, babois, mégalomane, flibustien!
Toutes les tragédies que tu as vécues, la femme que tu aimais, traquée jusqu'à la mort, tout ça, je peux le faire disparaître. Je crée une unité spéciale, aux pouvoirs spéciaux. Rejoins-moi et tu auras ta vengeance.
Les mutants, non, je ne les déteste pas, mais il faut les contrôler.
Au Pays des Bulles, toute l'actualité de la bande dessinée, le lundi dès 13h.
Descends donc, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme!
Emploi, actu,
relations de travail,
formation, diplôme,
compétences,
apprentissage,
formation,
emploi,
actu.
Les lundis de l'emploi, c'est tous les lundis de 8h à 9h sur Radio Centre-Ville.
Pour l'intégration de tous sur le marché de l'emploi au Québec et au Canada. et c'est animé par Gwen.
En matière de musique du monde, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Donc, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Donc, on va reprendre avec notre invité d'aujourd'hui, Romain Edgar. Rebonjour, monsieur Edgar.
Bonjour.
Donc, on a été le pasteur. Vous avez déposé une plainte contre le pasteur. Hein. Vous
ça,
lui avez
oui.
demandé de s'excuser.
Oui.
Hein, parce qu'il a nié comme quoi il vous a traité de malade mental et vous a traité de quelqu'un qui va mener une secte dangereuse.
Bah, okay. Moi, j'ai demandé des excuses du début. Ça veut dire que moi, j'ai cherché des excuses
oui.
pour son appartement chez moi dans mon appartement.
Oui.
Mais c'est ça. Après la réunion avec le comité de... comportement perturbateur. C'est ça. Je l'ai rencontré et brièvement dans la cuisine de l'église, puis il était là comme... Il essaie de se montrer comme le vainqueur.
Oui, ouais, ça, ouais, ça c'est clair.
Et j'ai dit ce que j'ai fait, j'ai envoyé une lettre quelques jours après, puis j'ai dit que
si vous excusez pas,
c'est ça, je vais dire que vous êtes un menteur.
Je vais traiter de menteur devant
c'est
le conseil d'administration.
C'est ça. Oui. Trois jours après, j'ai reçu son.
Il vous a envoyé une lettre.
C'est ça, entre guillemets, une excuse. C'était une excuse qui d'après moi, n'était pas une véritable excuse, mais c'était. En anglais, on dit non-apology, apology. Ça veut dire c'est une excuse, mais c'est pas.
Formel, quoi. Ouais.
C'est formel, mais c'est pas une véritable excuse. Pour l'instant, il a dit que je regrette que vous étiez. Je regrette que vous avez trouvé mes mots offensifs.
OK, voilà.
C'est pas la même chose que dire. Je regrette que j'ai parlé dans une façon offensive.
Oui.
C'est toi le victime.
Mais
trop
pour vous,
sensible,
monsieur Edgar, mais pour vous, cette lettre-là, c'était pas suffisante.
Exact.
Et oui, qu'est-ce que vous avez fait suite à ça?
J'ai dit que c'est pas suffisant. Je lui ai envoyé une lettre. J'ai dit que ça suffit pas. Il faut.
Admettre faut clairement
les choses.
Admettre
il faut,
que vous avez
il faut admettre les choses, il faut retirer les mots comme culte et psychotique et tout ça. Il faut les retirer formellement, c'est
ça.
Et j'ai dit que j'étais prête à réunir avec lui, avec un médiateur pour arriver
à une
excuse que je peux accepter.
Oui.
Il a ignoré ça,
il
a dit que ça c'est la seule excuse que j'allais jamais
je
avoir.
Oh,
c'est
mais,
ça.
Oui.
C'est... Puis. Alors, je lui ai donné un mois ou deux pour régler ça. Il l'a pas fait. Alors, finalement, j'ai envoyé une lettre au conseil d'administration expliquant cette situation-là. Ça, c'était, si je me trompe pas, en juin de 97. L'été de 97.
Ouais.
Alors, j'ai envoyé une lettre au conseil d'admission, parce que j'étais même pas certain si c'était au courant qu'il m'a donné cette lettre. Alors, j'ai dit que j'ai reçu cette lettre, c'est pas suffisant, il faut un véritable...
Excuse, oui, je comprends. Pour qu'il retire ses mots.
Exact.
Comme quoi, vous n'êtes pas un malade mental. Mais c'est
et ce lettre-là, ça a été ignoré par le conseil des règles. Ils n'ont même pas répondu.
Et c'est là où vous avez commencé à distribuer des lettres, des plaintes et tout, pour les membres.
Bon, c'est ça. Moi, j'ai attendu quelques mois pour la réponse de...
La réaction, oui.
Il n'y avait rien.
Négatif,
alors, c'est
oui.
ça. En septembre ou octobre de 97, j'ai, façon conforme avec le comité je suis allé sur le trottoir à l'extérieur de l'église et j'ai distribué une lettre aux membres de l'église.
Ah, vous avez respecté le...
Oui, j'ai respecté.
Ça, parce qu'ils vous ont interdit de parler ou de distribuer quoi que ce soit dans l'église.
Oui.
Donc, vous êtes sorti hors l'église.
C'est ça.
Et vous avez quand même commencé à distribuer les lettres.
C'est ça.
Oui.
Alors, j'étais en train de distribuer les lettres. Puis après 15-20 minutes, le vice-président de l'église, John Inder, est sorti avec une lettre qui disait que j'étais suspendu pendant 6 mois.
Une décision de le conseil d'administration comme quoi vous serez suspendu d'assister ou d'être à l'église pendant 6 mois.
C'est ça.
Okay. Avez-vous respecté cette décision?
Oui.
Vous l'avez respectée?
J'ai rien fait durant 6 mois. J'ai pris
même si elle était injuste, mais vous l'avez quand même respectée.
C'est ça. J'ai pu commencer mon proteste devant l'église à ce moment-là, mais oui. Je ne l'ai pas fait.
Et vous avez respecté 6 mois.
C'est ça. Oui. Mais quand
les
6 mois...
Mais une fois les 6 mois sont écoulés, vous êtes revenu.
On a encore un petit problème à régler. C'est ça. Okay. C'est pas fini. Oui. Ce genre de choses ne règle pas les problèmes. Il faut quand même régler les problèmes.
Tout à fait.
Puis, comme toujours, ils n'ont voulu rien faire. Et moi, j'ai dit bien avant que si ce n'est pas réglé à l'intérieur, je vais, à un moment donné, je vais protester. Et c'est j'ai fait.
Donc, c'est ça. C'est-à-dire au moment de printemps 98, j'ai bien expliqué.
Oui.
De toute façon, après avoir perdu toutes les batailles sur le front à l'intérieur de l'église, là, vous avez commencé, vous êtes retourné vers l'extérieur.
Oui.
Et c'est là où vous avez commencé à protester publiquement.
C'est ça.
Oui.
C'était en mai 98.
Là, vous avez commencé à utiliser des pancartes, des lettres, des plaintes et tout.
Ouais, c'est ça. J'avais des pancartes. J'avais probablement aussi une lettre donnée à des membres qui en demandaient.
Mais si je ne me trompe pas, vous m'avez dit quand même, pour faire de ces choses-là, vous avez quand même été allé consulter le poste 12 de la police pour savoir si vous avez le droit d'avoir un permis pour protester ou non à l'extérieur.
Oui, parce que c'est ça. C'était la première fois pour moi de protester comme ça, surtout seul.
Ouais.
Et j'ai voulu faire ça en conforme avec la loi. Ouais. Alors, j'ai parlé aux policiers pour savoir qu'est-ce que je dois faire.
Qu'est-ce qu'ils ont répondu?
Oui, ils m'ont expliqué que c'était pas nécessaire d'avoir un permis.
Et que vous pouvez le faire.
C'est ça.
Excellent.
La seule chose, ils ont pas m'informé qu'il faut marcher. Alors, au début, j'ai resté en place.
Ouais.
Alors, c'était après une petite intervention avec la police que j'ai commencé à marcher comme il faut.
Ça veut dire, si j'ai bien compris, entre 98 et 2000, vous avez fait que protester devant l'église.
Ça continue jusqu'à ces jours-ci.
Jusqu'à présent.
C'est ça. Ce qu'ils ont fait, même au début, j'ai fait mon petit proteste, puis je suis entré dans l'église pour la service pendant 2-3 mois. Alors, j'ai fait mon proteste, mais j'étais quand même membre, alors j'ai
continué à la fin.
Mais à un moment donné, ils ont dit, tu peux pas faire ça, tu peux pas entrer dans l'église si vous protestez à l'extérieur de l'église.
Ça veut dire qu'ils ont interdit même de rentrer dans l'église.
Oui,
c'est ça.
Ils ont
même annulé de...
Ouais, ce qu'ils ont fait, ils m'ont donné une autre suspension de 1 an.
Une année
C'est
l'église.
J'étais exclu pendant 1 an. Et ça, c'était contre les règlements de l'église.
Ouais.
Une des raisons pourquoi j'ai commencé à protester, c'est parce que d'après les règlements, il devait y avoir une réunion de toute l'église.
Ouais.
M'expulser permanemment si je fais quelque chose d'autre.
Pour expulser quelqu'un définitivement.
Et moi, j'ai voulu avoir cette réunion-là parce que j'étais convaincu qu'ils n'allaient pas avoir la vote de 2/3 nécessaire pour m'expulser. Alors, ça serait une façon de finalement régler ça au niveau...
À l'intérieur,
Et dans une manière... démocratique. Sauf qu'ils n'ont pas fait ça. Ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas assez de votes. Ouais. Alors, ils ont simplement...
Ignoré ça aussi.
C'est ça.
Cette étape-là a été brûlée aussi.
C'est ça. Ils ont ignoré propre règlement.
Là, maintenant, on va mettre un petit peu l'église de côté parce que c'est problématique. Ça se voit que ça se finit plus.
Ouais.
Maintenant, les arrestations, maintenant, le SPVM, les policiers qui ont intervenu dans le dossier, pouvez-vous nous commencer à expliquer? Je sais qu'il y a une centaine d'interventions des policiers.
Il y a
plusieurs.
C'est ça. Moi, j'ai pas compté, mais c'est facilement
plusieurs.
En soixantaine.
Mais l'arrestation qu'on commence par exemple en 2000, et puis ils ont trouvé le sous prétexte comme quoi il y a une nuisance au service religieux.
C'est ça. Bon, juste pour aller en arrière un petit peu, finalement, en novembre de 99, le 22 novembre, l'Église a eu cette réunion pour m'expulser de l'Église. Ils ont fait leur lobbying, ils avaient assez de votes, alors ils ont eu leur réunion.
Sans votre présence.
Bon, j'étais présent pendant une demi-heure pour me défendre contre leur charge.
Oui.
Et leur charge était que j'ai terni l'image de l'Église avec mon proteste. Et finalement, ils ont fait beaucoup de lobbying, ils savaient très bien.
Tout s'était préparé d'avance.
C'est ça, exact. Oui. Alors j'étais expulsé. Ça, c'était le 22 novembre.
Alors, vous n'avez pas avalé ça non plus, là.
C'est une autre raison de protester.
Ouais.
Alors, j'ai continué.
Ouais.
Puis le 4 décembre 2000, j'étais arrêté. J'étais très surpris parce que juste une couple de semaines avant, il y avait un policier dans un auto qui m'a regardé pendant bon 20 minutes.
Il a rien fait?
Il a rien fait. Et j'ai même approché le policier puis j'ai demandé est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon.
Est-ce qu'il y a quelque chose illégal?
Non, tout est bien.
Tout est bien, il est parti. Mais après ça, vous étiez arrêté.
Deux semaines après, le 4 décembre 2000, j'étais arrêté. Et apparemment, il y a une section de loi qui dit que tu ne peux pas nuire à un service religieux.
Nuisant service religieux, oui.
Alors, c'est ça. J'étais arrêté. En bref, j'ai contesté ça et j'ai été acquitté.
Ah, vous êtes au tribunal, vous êtes au tribunal.
Oui, yeah, ça c'est une longue histoire, je peux aller en détail, mais j'ai été acquitté.
Mais
de
toute façon, vous étiez à la cour, vous avez défendu tout seul, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas voulu, parce que vous n'avez pas les frais aussi pour un avocat et tout, vous êtes défendu tout seul.
Oui,
et
mais même si j'avais les frais, j'aurais fait ça moi-même. Ouais. C'était tellement.
Vous avez quand même. Est-ce que vous étiez acquitté? Oui. Le juge a trouvé ça niaiseux, quoi.
Il n'y avait rien là.
Il n'y a rien à vous reprocher. Oui. Maintenant, mais ce n'était pas la seule arrestation,
non.
J'imagine.
Oui. Non.
On va juste faire une petite pause musicale et on va revenir par la suite des arrestations.
C'est bon.
Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Donc, nous allons continuer. Juste faire une petite remarque. Si vous voulez lire un petit peu quelques articles sur Edgar Robin et son combat, il y a le journal. Quelques articles sont écrits.
C'est le Montreal Mirror. C'est en anglais, mais
quelques articles dans le miroir.
Ça. C'est facile à trouver sur Google. Juste mettre Robin Edgar, Montreal Mirror, ou même Robin Edgar arrested. Il faut utiliser utiliser les mots anglais parce que les articles sont en anglais. Mais...
Parfait. Donc, on va revenir. Donc, vous étiez acquitté de la cour. Le juge vous a acquitté parce qu'il y a cette niaiserie. Il n'y a rien à vous reprocher.
C'est ça.
Et vous, directement, vous revenez protester.
C'est ça. J'ai jamais quitté. Quand j'étais arrêté, je suis
informé
avec les gens. Puis ils ont dit, non, tu peux continuer. Ouais. Alors, j'ai continué. Il y a même une petite histoire liée à ça. Il y avait un avocat qui était en arrière de ses charges contre moi, un avocat de Queen's Counsel, ça veut dire un avocat élite. Mm. Puis il n'était pas très heureux. Alors, à un moment donné, il a volé mes pancartes. Alors, j'ai mis des charges contre lui.
Ça, c'est une autre chose.
C'est ça, c'est une autre chose.
On va juste revenir un petit peu. Donc, vous êtes revenu sur les lieux, continuez à protester.
Ouais.
Et une nouvelle arrestation, cette fois-là, elle est un petit peu musclée parce qu'ils vous ont mis les menottes et tout.
C'est ça. Actuellement... Oui, ils ont mis les menottes, mais ils ont fait ça dans une façon très, très bien. Aucun problème. Ils ont même demandé si les menottes étaient trop serrées.
Une manière très bien, ils vous mettent les menottes.
Ils étaient très professionnels, c'est ça. C'est parce que j'ai manqué le premier jour en cours parce que j'avais pas reçu le
jugement?
Non, pas le jugement, c'était pour aller plaidoyer et j'ai pas reçu la notification que je dois aller en cours.
Ah, okay.
Alors, j'ai manqué la première séance en cours. Alors, ça, c'est une arrestation automatique. Ça veut dire qu'il y a...
Ils ont arrêté pour ça, oui,
c'est ça.
Oui.
J'étais amené à la poste centrale. J'étais dans la cellule pendant un couple d'heures. Ils ont pris les empreintes et tout ça.
La photo, les empreintes et tout ça. Après, vous ont relâché.
C'est ça. Ils m'ont relâché, puis ils m'ont redonné mes pancartes.
Oui, voilà.
Puis, quand un couple de policiers ont vu ça, ils ont dit, quoi, tu lui redonnes ces
pancartes? Tu lui remettes les pancartes?
Puis le policier qui était en train de faire ça, il disait, oui, c'est un gentilhomme.
Non, il n'y a rien de... Oui, il y a d'agressivité. Ouais. Et après, vous continuez aussi. Vous revenez
exact.
Sur le...
J'ai jamais arrêté. J'ai pris des petits breaks ici et là, mais j'ai jamais...
Encore une arrestation.
Ouais, c'est ça. Ce qui s'est passé... c'est que finalement, le pasteur Drennan s'est démissionné. Il est allé en Nouvelle-Brunswick, puis ils en cherchent un autre pasteur. Puis il y a toujours un pasteur intérim entre les deux pasteurs.
Alors, vous étiez, je pense, vous étiez bien. Vous disiez, il y a un nouveau pasteur. Peut-être qu'il y a une possibilité de dialogue et tout.
Exact, c'est ça. Ouais. Quand la nouvelle pasteur est arrivée...
C'est une femme.
C'est Mme Deanne Roller.
J'espère qu'elle n'était pas athée non plus.
Elle est athée, je suis.
Elle est athée aussi.
Les 7 ans,
okay, vas-y.
Pas peut-être aussi intolérant que Drennan, mais quand même un athée. Ouais. Mais c'est ça, elle est arrivée. Et j'ai envoyé des courriels à elle disant que j'aimerais bien régler le problème.
J'aimerais bien la rencontrer
parler,
pour
c'est ça.
Et s'expliquer.
C'est ça. Et j'ai dit aussi que c'était très probable que
on arrive à avoir une solution.
Well, actuellement, j'étais en train de dire que c'était très probable que le conseil d'administration et d'autres gens ont menti à elle. Ça veut dire qu'elle ne savent pas toute l'histoire.
Oui.
Il vaut la peine de parler avec moi pour savoir.
Elle était mal informée.
C'est ça,
et vous auriez souhaité qu'elle écoute.
Et dans
cette
lettre, j'ai dit qu'il y avait des actions que j'ai gardées en réserve. Ça veut dire des choses que je n'ai pas faites que je peux faire. C'est juste pour dire que la proteste continue. Si tu ne veux pas parler, j'ai des choses que je peux faire.
Je vais continuer.
Mais elle a traité ça comme des menaces contre elle. Ça fait pas de sens parce que je parle des choses que j'ai gardées en arrière, même avant qu'elle est arrivée.
Ouais.
Mais elle a voulu simplement me silencer et elle a cherché un mandat de paix.
Et vous êtes arrêté suite à ça?
Oui.
Okay. Donc, vous, ils sont venus, vous ont arrêté.
C'est ça, parce qu'elle a dit aux policiers qu'elle avait très peur de moi.
Ouais.
Elle avait peur que je vais même faire des voies de fête, etc.
Ouais.
Alors, ça, elle a cherché le mandat de paix.
Et les policiers, j'imagine, c'est ça ce qu'ils cherchaient, d'ailleurs. Ça, c'est pour vous.
Ouais, c'est une façon de
vous annuler, quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a le chat de droit et liberté qui dit que tu peux protester, mais s'ils sont capables de te criminaliser...
Ouais. C'est la meilleure chose,
Exact, c'est ça. Il peut même faire ça avec des billets. S'ils te donnent des centaines de dollars
excellent.
En amende,
mais je veux savoir, monsieur Edgar, suite à ça, vous étiez allé au poste de police 11, c'est ça? C'était convoqué ou...
Ouais, OK, une minute. OK, c'est ça, on n'a pas trop de temps, c'est très détaillé. Effectivement, ça, c'est pas lié à ça. Pour aller en bref, ils ont eu leur mandat de paix. J'avais un juge très sévère, madame, c'est quoi son nom? Elle est reconnue d'être un juge dur, mais j'oublie son nom.
Vous y allez une seconde fois, alors.
C'est Roland Matt. Quand je parle de Roland Matt au avocat de défense, il, les yeux tendent et tout ça.
Ah, ils savent qu'elle est sévère.
Alors,
ouais,
elle a donné le mandat, même s'il n'y avait pas vraiment de bonnes raisons pour la faire. Je l'ai respectée pendant un an, puis j'ai retenu. Quand elle a donné le mandat, j'ai dit merci pour les vacances.
elle vous a interdit de revenir une année.
Pendant une année, j'ai pas protesté.
Ça, c'est la Cour. Ils vous ont ordonné de ne pas contester pendant une année.
Exact.
Une fois l'année écoulée, vous êtes retourné.
J'ai recommencé, c'est ça. Et même avant ça, les policiers sont venus plusieurs fois, mais après ça, ils sont venus chaque fois. Chaque fois que j'arrive avec les pancartes,
ils étaient là.
Pas immédiatement, mais l'église a appelé la police, puis ils sont venus.
Mais je sais qu'il y avait des centaines d'interventions de policiers.
Alors finalement, pour arriver à votre question, au printemps de 90, ça fait un an, il y avait un couple d'interventions avec la police qui était vraiment un peu trop. J'ai été arrêté une autre fois pour des billets que j'ai pas payés, des billets liés à cette proteste.
Oui.
Et dans cette arrestation, ce qui était normal, parce que j'ai pas payé des billets,
Les billets, c'était parce que...
Les policiers étaient... Ils m'ont menacé avec d'autres arrestations, ils m'ont menacé de mettre en prison, et ils ont fait des commentaires un peu trop. Alors, et une semaine après, il y avait un autre policier qui a insisté que j'avais besoin d'un permis. J'ai protesté pendant...
Ah là, c'est l'histoire du permis.
C'est à cause de ça que j'ai contacté Station 11 et j'ai dit, est-ce que j'ai besoin d'un permis ou non?
Une deuxième fois, oui.
Et aussi, vos policiers ont agi dans une manière que je ne trouve pas acceptable.
Ouais.
Alors, ils ont convoqué une réunion.
Une réunion au poste de police 11.
C'est ça. Je suis arrivé là, c'était le 3 juin de 90, même pas un an. Il y avait le lieutenant Sylvain Boisvert et il y avait aussi le détective Sergeant Scott Darrah.
Ouais.
Et je savais au moment, je savais très bien que une minute qu'il y avait un détective là, que ça va pas aller bien.
Pourquoi vous savez ça?
Parce que j'ai su que c'était plutôt pour me menacer avec une autre arrestation que d'essayer de régler le problème, c'est clair.
Enfin,
moi, j'ai demandé une réunion avec les policiers communautaires.
Non.
Mais le détective va là. Alors, quand ils font ça, vous savez très bien.
C'est une ouverture d'un dossier, c'est ça.
Alors, moi, j'ai parlé avec...
J'ai
parlé avec Sylvain Boisvert. Il a dit qu'il a voulu savoir toute l'histoire.
Oui.
Il a demandé une ou deux questions, puis très générales, puis il était arrivé immédiatement à m'en plaindre contre ces policiers qui ont été agressifs. Et j'ai dit, ouais, effectivement, ils m'ont menacé avec des arrestations, etc. Et c'est à ce moment-là que Scott Darrah est interrompu. Il a dit, I'm going to arrest you.
Je vais vous arrêter.
C'est ça.
Ouais.
Dans une façon assez agressive, assez sévère. Et cette fois, il y aura évaluation psychiatrique. In English, he said, you know, this time there's going to be a psychiatric. And he said it in a fashion, you know, in an aggressive manner. Alors, j'ai tourné vers lui. Et j'ai dit, en anglais, so you're suggesting that I'm mentally ill. Et il a répondu, you are mentally ill.
En
français, tu suggères que je suis malade mental?
Il a dit oui.
Vous êtes un malade mental. Alors, c'est vraiment un peu trop.
Mais que vous avez répliqué quoi, là?
Moi, j'ai dit, OK, si je suis un malade mental, de quelle maladie est-ce que je souffre? You know, all in English. J'ai pas les qualifications pour faire une diagnose, blablabla. J'ai dit, si tu n'as pas les qualifications...
Pourquoi vous traitez de ça?
Exact, c'est ça. De toute façon, il m'a menacé avec une autre arrestation, avec des charges criminelles plus sévères. Puis c'est ça.
Ça, c'est bien. Après ça, je sais que, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Monsieur Edgar, j'aimerais bien juste aller.
Ouais.
Ça a été un petit peu brutal aussi.
Ouais.
Et une seconde fois aussi, vous étiez...
C'est ça.
Et ensuite aussi, vous étiez en train de...
J'étais en train de protester devant l'église. C'était le fin février.
Oui.
Puis Scott Darrah est arrivé là avec un couple d'autres officiers.
Oui.
Je lui ai pas reconnu immédiatement, mais à un moment donné, j'ai pensé que il était en train de me demander des questions.
Oui.
Il a dit qu'on s'est rencontrés avant. Puis finalement, j'ai pensé à ça doit être le détective Scandella.
Et vous l'avez demandé
à... J'ai répondu à toutes ces questions. Puis à un moment donné, j'ai dit, est-ce que je peux savoir votre nom? Puis il a dit Scott Darrow. Puis j'ai dit, oh, si je me trompe pas, vous avez pensé que je suis un malade mental.
Et qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, je le pense encore. En anglais. Moi, j'ai fait une traduction.
Oui, puis il a confirmé.
Il a dit que, je vais dire en anglais, ses derniers mots étaient, I'm pretty damn sure. Ouais. Alors,
c'était confirmé. Mais ça. Donc ça vous a bouleversé, ça vous a fait
pas
trop.
Moi, je suis pas facilement bouleversé, mais j'ai quand même dit ça suffit, c'est pas correct ça.
Ouais.
Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de venir et parler avec un mouvement Action Justice.
Oui. Vous avez porté pour une plainte. Mais si j'ai bien compris, votre combat il a jamais cessé.
Non, pas du tout. Non, c'est en train. C'est
et
pas
jusqu'à
fini.
Présent, vous êtes toujours dans le même problème parce que le problème n'est pas réglé. Vous n'arrivez pas à vous refuser définitivement, vous n'arrivez pas à vivre avec ça, vous demandez pourquoi ici à Montréal, au Québec, on peut vivre avec une injustice. D'ailleurs, on vous voit, on parle avec vous, vous n'êtes pas quelqu'un de malade,
je ne pense pas.
Et puis, la proposition que vous avez amenée, c'est une proposition qui était vraiment très excellente aussi.
Oui, c'était un très bon fait interreligieux. La chose intéressante...
Marc, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Parce que je suis désolé.
La chose ici, c'est qu'on a des droits garantis par la Constitution.
On a
le droit de protester. Ça, c'est un droit qui doit être protégé par la police. Mais non, il fait l'inverse.
C'est les policiers qui deviennent...
Ils essaient d'écraser vos droits. C'est ça.
Écoutez, malheureusement, c'est tout ce qui nous reste de notre temps. J'aimerais tout d'abord remercier Monsieur Robin Edgar, pour son témoignage, en saluant son courage et sa détermination. Son témoignage aujourd'hui est un message aux agents de la SPVM et particulièrement au sergent détective Monsieur Scott Daira du poste 11 qui a traité notre invité de malade mental à deux reprises en signe de confirmation. Qu'est-ce que vous voulez, le pouvoir des idiots renverse souvent les vérités dans cette société. Merci aussi à Nadia Mirwan, notre nouvelle technicienne de son. J'annonce aussi que merci aussi à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. À moi, je vous dis, mes chères auditrices, chers auditeurs, passez une excellente fin de semaine et je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.
Nan troubadou nou jwenn la vi, se la nou pwen feeling nou. Nou chou di mas nan lakra midi, des enfants de moun kontre, yo deside pou yal fon ti danse. An pen sere nan la tel frappe, jel jagite la ete bezwen bloge, li pran fam nan pou lal peze. Maman est femme là, comme ça. C'est un peu rouge, de ça. Ou pas que nous avons caressé le comme ça. Maman est femme là, comme ça. Quelqu'un son âge qui jaloux, ou l'éloi d'amener les caricatures.
Votre matelas est abîmé par l'humidité. Si les ressorts sont brisés, si vous avez des allergies, ou si vous avez des punaises de lit, Lidor peut régler tous vos problèmes. Lidor, 6552 Saint-Laurent, au nord de Beaubien. www.lidor.com.
Le 2 mai prochain, les Canadiens seront appelés aux urnes.
Et pour vous aider à bien comprendre les enjeux de cette nouvelle élection, la salle de presse de Radio Centre-Ville vous offre tous les jeudis de 11h à midi l'heure des choix. Une émission qui vous fera voir la campagne électorale sous un autre œil. C'est donc un rendez-vous à l'heure des choix tous les jeudis jusqu'au 28 avril de 11h à midi sur les ondes du 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Le Masseur des années 30, un tournoi de golf hors du commun au bénéfice de la Fondation Fiche Corporation. Habillez-vous pour les sans-abri. Le Masseur des années 30 se tiendra au prestigieux Elmridge Country Club le 16 juin 2011. Invité d'honneur, Monsieur Rémi Bouchard. Un appel est lancé aux entreprises. Votre partenariat est recherché. Aidez-nous à fournir un toit et un lit aux personnes dans le besoin. Pour information sur ce tournoi d'époque, 514-670-7004, 670-7004 ou www.fichecorporation.org.
Depuis 35 ans, nous permettons aux Montréalais et Montréalaises de toute origine d'échanger et de construire sur ce qui les unit. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.